Vous écoutez
RMC.
RMC.
Viry Châtillon, Sucy en Brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. Là, j'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Et c'est, le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là comme tous les soirs, jusqu'à minuit sur RMC. L'after, la seule émission en direct, 7 jours sur 7. Et bonjour à toi. Toi qui nous écoutes en podcast, toi qui fais ton footing du samedi matin, toi qui j'ai fleuriste pour acheter des fleurs à ta belle-mère avant d'aller déjeuner chez elle, peut-être. Toi qui fais semblant de bosser, peut-être en écoutant avec tes écouteurs l'after foot, le débrief de la soirée foot justement avec à mes côtés Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous et salut à ceux qui vont déposer leurs enfants au sport le samedi matin.
Par exemple, tiens, une proposition également Lionel Charbonnier. Bonsoir Lionel.
Salut Nico. Pourquoi tu me regardais? Soit toi qui fais semblant de bosser avec tes écouteurs. Non.
C'était les écouteurs. Et
c'était pour moi ça.
Salut à ceux qui se rendent à une course de cheval. ce samedi matin.
Course de chevaux même, hein, on peut le dire.
Ouais.
Parce que si c'est une course, ça veut dire qu'il y a plusieurs chevaux.
Ouais. Enfin, je parlais plutôt parce que
ça fait une course contre la montre.
Non, non.
C'est une discipline à inventer. Non,
je dois dire que je parlais plutôt pour la fille de Lionel qui, pour le coup, ne concourt qu'avec un seul cheval. Mais bon.
Ah oui, avec deux, c'est dur.
C'est pas une course dans ce cas-là.
Et avec deux chevaux, c'est du cirque, je pense. Debout.
En fait, un beau cirque.
Mais manqué, les gars, la fin de week-end, mon Dieu.
Ouais, ouais.
Quelques années après, je suis heureux de retrouver. Les gars, bien sûr, on va
dire. Tu travaillais plus.
Je bosse en semaine maintenant, mon cher.
Ah, d'accord.
Ouais, très bien aussi. Hein. C'est bien de travailler en semaine et d'avoir ses week-ends. C'est pas mal.
Ah, ça te change un peu. Hein.
C'est pas mal.
Maintenant, tu viens plus me voir le week-end, par contre.
Je peux, hein, tu m'invites quand tu veux aller voir tes chevals chez toi.
Et ton chevaux, surtout.
Et ton chevaux. Avec tous mes cheveux et sans les tiens, Lionel. Ce soir. Bah, la victoire de Nice, encore une. Nice qui reprend la tête du championnat de France de Ligue 1 avant Monaco ce week-end. Nice vainqueur de Clermont, 1-0. Vous nous appelez au 32-16 supporter niçois pour en débattre. Hein. Le Farioli Ball. Avez-vous aimé la prestation niçoise? Elle est dans la lignée, dans la continuité de ce que Nice fait depuis le début de la saison. Solide, efficace. Lyon avant Marseille dimanche soir. Fabio Grosso est-il capable de relancer l'OL dès ce week-end? On écoutera l'entraîneur lyonnais qui est notamment revenu sur l'épisode de la taupe. Tiens, et puis cette question ce soir pour finir l'after du vendredi soir. Warren Zahir Emery, étincelant en Ligue des Champions, doit-il être rappelé le plus tôt possible par Didier Deschamps en équipe de France à 8 mois de l'Euro? On fera le débat avec vous également au 32-16. N'hésitez pas, un supporter parisien et supporter plus largement de l'équipe de France. C'est parti pour l'after. Le jingle 3 points, s'il vous plaît.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Lionel.
Bah écoute, encore une fois, Nice fait le plein comptable. Alors les puristes vont se plaindre de peut-être de la beauté du jeu et tout ça, mais moi ce que je retiens, c'est que Nice engrange les victoires, Nice est là, Nice est premier du classement et voilà, et c'est très bien pour les Niçois parce que ça sera mon point numéro 2. C'est quand même pas si mal que ça dans le jeu parce que Nice se crée des occasions. Bien sûr, il y a un manque de réalisme côté niçois, mais il y a des occasions, il y a des pénalties, il y a plein d'occasions loupées. Donc c'est quand même pas si mal que ça dans le jeu. On y reviendra, je pense. Et puis, allez, un petit scoop. J'ai pas de regrets normalement dans ma carrière. Tu vois, si elle était à refaire, je la referais. Mais ce soir, quand je vois Dante jouer,
ah oui.
Eh ben, je regrette de pas avoir eu ce mec juste devant moi. J'en ai eu des bons, j'ai eu Verlade, j'ai eu Laurent Blanc, j'ai eu Colin Henry, j'ai eu Craig Moore, tout ça, des super mecs, des super. Mais alors un Dante extraordinaire, 40 ans, le mec il fait encore un match extraordinaire. Todibo à côté qui arrête pas de progresser à côté d'un mec comme ça. Non, Dante, bravo, bravo, masterclass, belle carrière.
C'est ça les 3 points désormais vendredi soir.
C'est-à-dire
que ça fait 3 minutes 30?
Ouais, moi, ouais.
Ah, c'est nouveau.
Moi, c'est récurrent.
Lionel, Kevin.
Tu sais quand même que les 3 points de coach Courbis, maintenant, Thibaut a.
C'est 2 points.
C'est 2 points.
Ouais, ah bon, coach, c'est pire que moi.
Il n'aime pas les victoires à 3 points.
Non, coach, c'est 2 points.
Comme il aime donc, bien il est pire que moi.
Non, comme il veut la victoire à 2 points. Moi, mon premier point, c'est quand même la victoire de Nice. Et j'ai envie de parler de. de ce Farioli Ball dont on parle de façon un peu péjorative, je trouve.
Oui, il faut arrêter.
Et j'en ai parlé, moi, il y a quelques semaines. D'ailleurs, les supporters niçois l'ont mal compris. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à Farioli, à n'importe quel entraîneur, peu importe sa philosophie, c'est de gagner les matchs. Ah ouais, aujourd'hui, il les gagne. Et on aura le temps d'en parler. Donc, bravo à lui. En deux, bah, c'est quand même la défaite de Clermont qui a été, contrairement à son match du week-end dernier contre Lyon, décevant. Ils avaient été plutôt bons à Lyon. Et ce soir, je les ai trouvés un peu passifs. Et en troisième point, bah, c'est un joueur. Alors bien sûr, je suis d'accord avec Lionel sur Dante, mais c'est Melvin Barre. En tout cas, moi, j'ai pas toujours été tendre avec lui à son époque lyonnaise.
Il doit être blessé là, non? S'il est sorti, il y a dû y avoir une blessure. Les joueurs étaient très bons encore.
Les joueurs ont le droit et doivent progresser, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il a été encore une fois très bon.
Voilà pour les trois points de Lionel et de Kevin qu'on va développer ensemble jusqu'à minuit. On est ensemble dans l'after. Bien sûr, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After Foot, After-Foot. Vous êtes nombreux à nous écouter, à nous regarder aussi et envoyer vos commentaires. J'en lirai quelques-uns. Beaucoup de commentaires critiques, hein, d'ailleurs, sur le leader de Ligue 1, sur Nice. Hein. Mon Dieu, c'est ça la Ligue 1, c'est ça le leader de Ligue 1.
Mais pourquoi, en fait?
C'est le spectacle qu'il propose aujourd'hui. On va bien se marrer avec Nice, avec des champions la semaine prochaine. Ça va être compliqué, nous dit Tony Codem, notamment. Sargasse nous dit ça, mon Dieu, cette Ligue 1, la tronche du leader.
Non, mais là je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ouais. Même si, bien sûr, dans l'after, on est quand même une émission où on dit que le résultat ne se suffit pas à lui-même. Moi, j'ai dit la semaine dernière, et je n'en enlève pas un mot, que l'OM a perdu contre Nice, mais l'OM n'était pas inférieur à Nice. Par contre, Nice a été plus réaliste dans les deux surfaces, c'est comme ça. Ça fait partie du football. Aujourd'hui, t'as un jeune entraîneur qui arrive, qui prend un club qui était en difficulté sur les dernières saisons, à mettre en corrélation les ambitions assez élevées d'un nouveau propriétaire qui du coup ont été revus à la baisse avec un entraîneur peut-être moins ambitieux, en tout cas en termes de nom, mais pas en termes de jeu, et avec surtout un directeur sportif, Gisolfi, qui en tout cas sur ces dernières années à Lens et puis là à Nice, dingue, on a l'impression il se trompe rarement sur les profils de joueurs et d'entraîneurs qu'il recrute. Aujourd'hui, l'entraîneur, il est là. Moi, je lui demande pas de jouer comme Deserbi. Il y a quand même des sorties de balles, on balance pas non plus. Maintenant, est-ce que c'est pas un entraîneur qui s'est adapté à ce que réclame la Ligue 1, c'est-à-dire
qui s'est adapté à son effectif aussi.
Qui s'est adapté à son effectif jeune.
C'est aussi ça l'intelligence d'un entraîneur.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prendre des points, surtout quand tu es un jeune entraîneur qui débarque dans un grand club avec un projet quand même assez ambitieux comme je viens de le dire. Mais moi, je vais pas reprocher à cette équipe de Nice de jouer un football un peu plus minimaliste. Ça va, ils envoient pas non plus des grands ballons devant et
non, ils ont fait un pressing haut toute la première mi-temps.
C'est intense, hein. C'est intense dans le pressing collectif.
Dans le pressing, mais non, non, mais c'est
carré quand même.
C'est hyper cohérent. Voilà. Bien évidemment, c'est construit. Il y a sa patte. Tu vois la patte de l'entraîneur. Tu vois des joueurs qui adaptent. Enfin,
je vois pas beaucoup de différence entre Nice de cette année et Lens de l'année dernière. Je parle pas de Lens de l'année d'avant.
Je suis complètement d'accord. Quand j'écrivais mon truc, je pensais à Lens. Et Lens, c'est exactement la même chose. Alors, sauf qu'il y avait plus de buts côté lensois. Généralement, c'était là, ça doit faire le quatrième ou cinquième match que.
Quatre fois 1-0 sur les 5 derniers matchs.
Voilà, exactement. Donc, peut-être que Lens, la différence, c'est qu'il y avait 2 ou 3-0 à la fin, rarement 3, mais souvent 2. Mais sinon, il y a du pressing haut, il y a des occasions. Effectivement, il y a un manque de réalisme. Aujourd'hui, ça se termine à 2-0 avec le penalty qui a été loupé. Il y a rien à dire non plus. Et cette équipe de Clermont, elle est très compliquée à jouer. C'est pas la première équipe qui aurait pu se casser le nez sur Clermont.
Bah, le PSG
n'y est pas arrivé.
Ah, le PSG a fait 0-0 à Clermont.
Nice, que Nice a battu. Je le rappelle.
PSG, ils ont quand même battu. Non, c'est costaud
nice,
défensivement.
Ils ont battu le PSG,
Monaco,
et Marseille. C'est comme le PSG à Paris.
À Paris, non, ouais.
Franchement, tu dois.
C'est pas une équipe qui met le bus. C'est pas une équipe qui joue contre attaque.
Ils l'ont fait contre le PSG, mais il faut le faire.
Tu peux faire que ça. Et puis, il faut être capable de le faire contre le PSG. Tout le monde ne réussit pas ça.
Donc,
je suis pas d'accord. Et je suis d'accord avec toi, Kevin, par rapport à même à la situation actuelle, avec tous les problèmes qu'il y a eu en fin d'année et qu'il y a actuellement individuellement. Ok, ça touche les joueurs, mais ça touche quand même le vestiaire. Et ben là, moi je vois une équipe complètement cohérente.
Farioli, ce qu'il fait, et je le sais hein, personnellement, c'est qu'il est arrivé ici, il observe encore la Ligue 1 aujourd'hui. Il s'est dit, je connais pas encore ce championnat. Je l'observe encore, je découvre aussi mon effectif. Je vais faire simple. Alors oui, on l'a vendu comme l'héritier ou le successeur de Roberto De Zerbi. Voilà, la même filière de jeu. Il le fera peut-être, dans un premier temps, il solidifie son équipe, il fait quelque chose d'extrêmement simple et cohérent, et il se trouve qu'en Ligue 1, et c'est ça qui est intéressant, il se trouve qu'en Ligue 1, ça marche.
Bah, bien sûr.
Alors oui, mais... alors comment le prendre? C'est ça la question, quoi.
Non, mais.
C'est intensité, que... discipline, rigueur, dans le pressing, dans le replacement. Non, mais et avec un soupçon de talent devant, incarné notamment par Parter Mofi ou même Hichem Boudaoui.
De toute façon, encore une fois. L'an dernier, on a envoyé des louanges à Lens qui, avec un budget limité, arrivait à enchaîner les bons résultats, a fini à un point du Paris Saint-Germain, version Qatar. Donc, aujourd'hui, tu as une équipe de Nice qui est bien en place, qui a quand même pas mal de jeunes joueurs, qui a un jeune entraîneur. Le gars, il analyse ce que demande la Ligue 1. Il est premier en Ligue 1.
Il a 22 points sur 30 possibles.
Il a 22 points sur 30 possibles fin octobre. Mais qu'est-ce que tu fais?
Et là aussi,
tu vas dire quoi? Ah non, il faut plus de buts. Non mais les gars, moi je suis désolé. Moi encore une fois, dans le foot, j'aime bien avoir le ballon. Cette équipe, elle a le ballon. Si on regarde les statistiques, c'est pas une équipe qui laisse le ballon.
En première mi-temps, il y a un moment donné, il y avait 77% de possession. Infructueuse, effectivement. Mais il y a eu des occasions.
Et quand on dit que, moi j'ai dit donc il y a quelques semaines, Lionel, j'ai dit il y a pas de Farioli ball. Dans l'air de dire où il y a pas de Deserbi ball. Le truc c'est ok, tu veux être protagoniste, mais surtout tu veux gagner les matchs.
Mais bien sûr.
Il y a un moment, tu veux gagner les matchs, tu les gagnes. Qu'est-ce que tu vas dire? Ok, t'as gagné 1-0, mais aujourd'hui tu dois gagner 2 ou peut-être.
Je vais faire un petit point de classement quand même parce que je l'ai pas fait. C'est important les gars. Donc Nice, hein, 10 journées, 22 points plus 2 par rapport à Monaco, plus 4 par rapport au PSG. Hein. Je vous rappelle que la journée se prolonge ce week-end. Le classement. Bon, j'ai pas le calendrier sous les yeux, les gars, mais vous savez que Paris jouera à Brest à 13h dimanche et que Monaco de son côté jouera à Lille dimanche à 15h. Quelques stats quand même pour Nice, hein, pour raconter l'efficacité niçoise cette saison. Je le disais sur les 5 derniers matchs, 4-1-0, 11 buts marqués en 10 journées.
Oui, c'est pas
à
c'est,
peine plus d'un but par
c'est
match.
C'est pas énorme, mais il y a quand même des
meilleure
locales.
Défense de Ligue 1, 4 buts encaissés en 10 journées. Et 7 clean sheets en 10 journées, record des 5 grands championnats européens ou des 5 championnats majeurs européens, je sais pas comment on le dit.
Savoir ne pas prendre de but sans mettre le bus sans mettre deux lignes de 4 ou une ligne de 5, une ligne de 4 par exemple, c'est quand même quelque chose parce que là on a vu la première mi-temps, il y a eu jusqu'à la 33e minute un pressing haut des Niçois et les joueurs de Clermont n'y arrivaient pas à sortir. Mais c'est pas seulement les joueurs de Clermont, c'est toutes les équipes qui ont du mal à sortir la balle. Après, quand on parle aussi, ce sont les statistiques qui sont exceptionnelles. Hein, quand
c'est aujourd'hui assez rare d'être leader avec ces stats, c'est très rare.
Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, je reviendrai, on fait beaucoup de comparaisons, enfin un comparatif avec le Lens de l'année dernière. Mais le Lens de l'année dernière était... J'irais même plus loin. À chaque fois que Lens était dominé, Lens se projetait très vite en avant, marquait beaucoup en contre-attaque. Aujourd'hui, encore Nice, quand il marque, c'est dans un temps fort des Clermontois. C'est Clermont qui va beaucoup mieux en seconde période, qui a le monopole, qui commence à faire mal à Nice et tout d'un coup, boum, Nice est capable de te tuer. C'est une arme supplémentaire.
C'est vrai. J'en reviens à cette...
Attends, d'abord je vais accueillir, on a le temps, hein, on va débriefer, on fera une pause ensuite, on pourra continuer sur Nice, on parlera rapidement de Clermont aussi. Jérôme est avec nous, supporter niçois, Jérôme au 32-16, salut.
Salut, bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir dans l'After sur RMC avec Lionel Charbonnier et Kevin Diaz.
Merci.
Alors, comment tu as vécu cette victoire? Comment tu l'analyses également? Est-ce que ça te va? Évidemment, j'imagine.
Ben, ça me va, oui, bien sûr que ça me va parce qu'on prend des points et je l'ai dit tout à l'heure en avant-match, je suis passé aussi. C'est vrai que ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est une équipe solide. Mais en fait, elle est solide et je rejoins un petit peu, je crois que c'est Lionel qui disait ça, c'est que c'est pas une équipe qui met le but. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est solide, qui commence à se trouver avec de la complémentarité au niveau de la défense. Todibo Danté, bon, on va pas en parler, mais c'est quand même assez fort ce qu'ils font tous les deux.
C'est très fort.
Et en fait, ça part du gardien, et petit à petit, on sent que le chaînon est en train de se mettre en place. Alors, évidemment que le jeu, il est pas flamboyant, mais ce soir, j'ai trouvé que c'était peut-être la meilleure prestation de mon équipe, en tout cas de cette équipe que je supporte. C'est la meilleure prestation en termes d'occasion créée. Parce qu'il y a quand même le pénalty, il y a la frappe de Sanson sauvée par le défenseur, il y a l'occasion de Danté, il y a le but, il y a la frappe de Boga, puis l'enchaînement de Baldé aussi, la double parade du gardien.
Ouais, Joe a fait des arrêts, de 3-4 beaux arrêts ce soir.
Donc je pense qu'on fait notre meilleur match en termes de création d'occasion. Par contre, c'est là où je mets un petit bémol, c'est que pour l'instant on n'est pas assez tueur, la borde...
Efficace.
On n'est pas efficace. On est efficace, mais on est réaliste. Mais en même temps, on pourrait peut-être marquer plus de buts. Et alors, on dirait peut-être, sans parler du Fiori Ball, mais de dire, bon, ben, c'est une équipe qui est leader, qui est flamboyante, qui est... Mais en fait, pour l'instant, on est sur des scores de 1-0, mais on sent qu'il manque pas grand-chose pour que ça puisse ce soir. Si on gagne 3-0, franchement, clairement, ils ont montré quoi? Ils ont rien montré. Ils ont pas mis le bus, mais ils ont pas spécialement montré grand-chose, clairement. Si ce match, on le gagne 3-0, je dirais que c'est dans toute logique. Mais finalement, on le gagne que 1-0 et on est là à tatillonner et à dire, bon, ben, c'est solide. C'est pas encore, mais ce soir, c'est notre meilleure prestation. J'attends de voir ce que va dire Farioli, mais personnellement, je pense que c'est la meilleure prestation. Moi, je suis abonné, je vais voir tous les matchs. Même à domicile, où on a un peu plus de mal, évidemment, ben, c'est notre meilleure prestation, je trouve, depuis le début de saison. En termes de création d'occasion, maintenant, il va falloir régler la finition. L'entrée de Mofi, elle est quand même très limite, quoi. Il est sur le banc, il est titulaire à tous les matchs. Il est sur le banc, on le pique un peu. Le mec, s'il rentre, il a envie de se donner. Il a pas fait le pressing comme on fait les autres.
Il est rentré, Mofi.
Oui, il est rentré.
Ouais, il est rentré.
Non, il a joué une grosse demi-heure.
Vous l'avez vu?
Oui, c'est ce que veut dire Lionel, justement, ouais.
Il s'est pas créé d'occasion. Le mec, il doit rentrer. Thuram, c'est pareil. Il fait une entrée, elle est
scandaleuse. Alors, Thuram, on pourra en parler aussi dans un instant.
Lui qui adore porter le ballon, putain, il rentre. À un moment donné,
à quoi ressemblerait ce Nice avec le Thuram qu'on a vu la saison dernière ou la saison d'avant, surtout encore? Il fait une saison pour l'instant moyenne.
Mais il est moyen, mais il peut tellement apporter dans sa projection vers l'avant. En fin de match, il y a des situations où on peut mieux décaler tout ça. Lui, pareil. À un moment donné, il y a un décalage en fin de match où on souffre un peu plus, où on est un peu acculé sur notre but parce que on a un peu peur de se faire égaliser. Et il y a un décalage où il y a le Clermontois et on le voit aller en marchant vers le mec pour le contrer. Je suis pas d'accord. Le mec, il est sur le banc.
Mais c'est justement peut-être là ce que disait Nico, et c'est là-dessus que je le rejoins, où il faut aussi attendre et que d'un côté, au départ, tu assois ton jeu défensif, et ensuite, avec un peu de patience et tout ça, on va retrouver peut-être, c'est peut-être le prochain épisode pour les Niçois, je vous le souhaite à tous, les Mofi, les Thuram et compagnie, dans le jeu offensif et notamment dans l'animation lorsque les Niçois ont la balle.
Merci, Jérôme, d'être venu sur RMC dans l'After Foot. Quand tu veux, tu fais le 32-16. Dès que tu veux, pour
merci,
parler des, du
à
gym.
Bientôt.
Très bonne soirée à toi sur la Côte d'Azur dans un instant. Tiens, Wissem sera avec nous également pour parler de Nice. Je vous rappelle qu'on parlera de Lyon également à 48 heures d'un duel au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. On parlera aussi de Warren Zaïre Emery. Doit-il être appelé dès maintenant, en tout cas pour le prochain rassemblement en équipe de France, par Didier Deschamps? Appelez-nous 32-16 RMC. C'est l'After, 23h15. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot RMC, merci d'être avec nous ce vendredi soir et avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier et sur YouTube aussi. Tiens, vous le savez, depuis maintenant quasiment deux semaines, on est ensemble. L'after est devenu une émission de télé aussi. Vous nous regardez, after-foot sur la chaîne YouTube de l'After. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez vous abonner aussi, hein. Évidemment, c'est gratuit. Et il y a un chat disponible, comme vous le savez, pour envoyer vos commentaires. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure. Tiens, Nice, j'accueille Wissem au 32-16, supporter du gym. Salut Wissem.
Salut l'équipe.
Bienvenue dans l'After. Salut Wissem.
Merci. Salut. Alors, Lionel. Salut l'équipe.
Tu es dans quel état là, donc supporter niçois, tu es sur un nuage, tu te dis putain on va jouer le podium, c'est évident cette saison désormais, on le sait. Comment tu te projettes?
Ah oui, là on est obligé de jouer le podium là. Ah là c'est obligé, c'est obligatoire. C'est obligatoire à ce moment-là de la saison, on doit jouer le podium. C'est tout.
Surtout que le podium il est à 4 cette année.
Oui. Ouais, en plus. Et moi, je voulais dire un petit mot. En fait, il y a des auditeurs, je crois que c'est des jaloux. Ça doit être des Marseillais, ça, c'est sûr.
Pas forcément.
Bah, peut-être, hein, peut-être. Je suis pas sûr. Mais attendez, on dit que le premier, il est pas... Je sais pas, ils sont pas bons, ils font pas trop de beaux jeux. Mais bien sûr qu'on fait le beau jeu. On est là, on tape Paris, on tape Marseille, on tape Monaco. Quand même, faut le faire quand même.
C'est... Oui, il faut le faire. Après, tu entends que certains regrettent, je sais pas, le manque de spectacle, de. Oui, c'est solide.
Quand tu vas,
ça me rappelle un PSG de Valdés à l'époque, qui a fait match 1-0 ou la Grèce 2004.
Mais quand tu vas voir quand tu vas voir une pièce de théâtre, tu vas voir un spectacle. Après, tu vas voir une autre pièce de théâtre qui sera pas du tout la même. T'auras un autre spectacle. Là, il faut quand même Je sais pas, moi, le truc, un spectacle, c'est quand c'est maîtrisé, c'est.
Bah, mais la question, c'est que vaut ce leader de Ligue 1 aujourd'hui?
Mais on se rend compte,
je dis pas que vaut, c'est un problème.
C'est quoi le beau jeu? C'est quoi le jeu idéal? C'est quoi tout ça? Chacun a son.
Non, mais de toute façon,
techniquement, vous en pensez quoi, les gars? Techniquement, on a compris, c'est très solide, c'est hyper cohérent et efficace.
Que vaut le Lille de Christophe Galtier?
Voilà, c'est pareil.
Ben voilà. Ben, c'est une équipe qui a été championne de France. L'année dernière, Lens, on vend Lens comme si. Lens, c'était pas des herbies, hein. Lens, c'était bien en place. Il y avait un attaquant qui marchait sur l'eau. Il y avait un milieu de terrain qui était au-dessus. Voilà. Ils ont marqué des buts. Ils ont gagné les matchs. Lens, l'année dernière, il gagne au Vélodrome. C'est un hold-up.
L'attaquant qui manque aujourd'hui à l'OGC Nice. Hein.
Voilà. Et aujourd'hui, bon, même si Mofi, c'est pas mal quand même, même si il rentre pas forcément dans le système sur les dernières semaines, mais il avait quand même fait la diff au Parc des Princes.
Ça pourrait être pas mal, ouais.
Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, et je vais en revenir à cette interview de Mathieu Bonnemère sur le site de Walid Acharchour et de ses amis sur le Club des Cinq, quand il disait comment il a construit son groupe pour gagner la Ligue 2 ou pour faire une bonne saison en Ligue 2. Il disait en Ligue 2, voilà, faut avoir la possession, faut presser haut, faut empêcher. Et ensuite, il a dit, avec nous dans Génération After, que pour la Ligue 1, c'était autre chose. Il fallait faire plus attention.
Lucas, c'est voilà. La grosse différence dans la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2, c'est les transitions. Voilà.
Donc aujourd'hui, t'es un entraîneur, t'arrives. Mais tu fais pareil. Tu regardes qu'est-ce qu'il faut en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on fait Lens l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait le Lille de Christophe Galtier avec un peu moins de moyens que certains clubs. Eh bien, ils ont peut-être pas eu un jeu ambitieux comme à l'époque de Marcelo Bielsa et pourtant on a tous adoré. Ils ont peut-être pas fait un 3-3-3-1, mais c'était solide. Ça prenait pas beaucoup de buts parce qu'aujourd'hui, quand t'es une des meilleures défenses de Ligue 1, tu vas finir sur le podium. Point. C'est clair. Il y a un moment et être la meilleure défense de Ligue 1, c'est pas forcément mettre le bus. C'est aussi pouvoir presser haut. C'est empêcher l'adversaire de se projeter vers l'avant. Attends,
quel que soit l'adversaire.
Autant, encore une fois, je maintiens, c'est pas parce que tu gagnes un match où t'as pas forcément mérité de le gagner comme la semaine dernière où t'aurais pu faire largement match nul, mais finalement tu l'as gagné, bravo. Là, tu gagnes encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs, ils jouent avec leurs armes.
Merveilleux, Denis, aujourd'hui, t'es heureux. T'es heureux parce que, comme tu disais, Lionel, tout à l'heure, au début d'after, tu sais d'où tu viens, d'où tu reviens également.
Oui, ce que t'es en train de
et aujourd'hui, vivre, avoir 22 points, alors qu'on t'a dit l'été dernier que Sir Radcliffe allait être moins ambitieux et moins dépensier à Nice. Voilà quoi, avec une ambition réestimée. Nice est là, est leader de Ligue 1 après 10 journées avec 22 points sur 30 possibles.
Il faut regarder l'effectif de Nice, c'est un bon effectif. Mais ça va, c'est pas non plus je veux dire, il y a pas de Openda, il y a pas de Seko Fofana et
ouais, mais même... ça reste un effectif quand même top 5, top 6 Ligue 1
top
quand même, 5,
top
tu 6 vois.
Ligue 1, mais là ils sont top 1.
Ce soir tu fais entrer Romain Perrault, Terem Moffi, Kefren Thuram,
oui, mais tu es top 1 là. Donc tu surperformes un petit peu aussi. Donc voilà, peut-être que quand tu vas perdre quelques matchs, bah tu seras à ta place, top 5, top 6.
Tu sais qu'il y a un fait de jeu, c'est le fait de jeu, il y a pas de souci, mais sur le but de l'OGC Nice juste avant, il y a un coup franc qui est sifflé contre Clermont pour soi-disant une main d'un joueur de Clermont qu'il n'y a pas. Juste derrière ce tacle, il y a, comment il s'appelle, Boulka, qui sort, qui fait pénalty. Mais comme la fausse main qui a été sifflée, il y a eu coup franc pour les Niçois, il tire le coup franc, but derrière.
Et je vais aller plus loin, j'en parlais à Nico à la fin du match. Le pénalty qui est raté en première mi-temps par Laborde, est-ce que c'est pas le pénalty que tu obtiens quand t'es en pleine réussite?
Mais en pleine réussite?
Parce que qu'est-ce qui va aller faire cette faute-là, le Clermontois, à l'angle de la surface, une action anodine où il bouscule le mec, et là t'es entraîneur, t'es joueur, t'as un peu de mal à marquer. Certes, tu rates le pénalty, mais on t'offre un pénalty en fait. Vous êtes en confiance, vous êtes premier.
Non seulement allez, tu rates le pénalty, mais tu gagnes le match.
Ouais, c'est ça qui est fou.
Oui, bien sûr.
Bon, tu gagnes le match dans la circonstance que tu dis.
Wissem, t'es en pleine réussite.
Wissem, tu voulais rajouter quelque chose?
Moi j'étais tout d'accord avec toi, Kevin. T'as tout dit.
Très bien, mais Kevin, t'as résumé la pensée de Wissem. Merci Wissem, tu reviens quand tu veux. Hein, sur RMC et dans l'after en particulier. Un mot sur quelques individualités niçoises quand même, les gars. T'as parlé de Melvin Barr dans ses trois points.
Oui.
Il faut reconnaître qu'il fait. Enfin, reconnaître. Faut pas l'assumer, c'est normal. Il fait un très bon début de saison.
Très bon début de saison, mais c'est aussi ça la qualité d'un entraîneur.
Joueur brocardé parfois, critiqué, y compris à Nice.
Bon. Il y a un moment, il n'était pas bon. Où il n'était pas forcément au niveau des ambitions d'un club comme Nice ou à un moment d'un club comme Lyon. Mais un joueur, c'est aussi l'intelligence d'un joueur ou dans n'importe quel boulot. Il y a un moment, il faut progresser. Quand tu as des lacunes, il faut travailler dessus.
C'est aussi l'intelligence d'un entraîneur.
Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire, un entraîneur.
Faire progresser ses joueurs.
Parce qu'aujourd'hui, on me dit, certes, Kefren Thuram est remplaçant. Mais moi, le milieu de terrain Sanson, excellent depuis le début de saison. Il avait déjà été bon.
Daichimi, la puissance.
Daichimi, moi j'adore.
Sur j'adore la composition, mais personne n'en parle en plus. Mais on
n'a jamais en début de saison aussi.
Ouais. Les compositions de cet entraîneur.
Ouais, je suis d'accord. Daichimi, toute proportion gardée. Bien sûr,
oh là,
dans l'after.
Non. Oh là là.
Bien sûr, dans, je l'ai déjà dit.
Tu vas mais le comparer bien, à qui? À Mamadou Diarra, à Michael Essien?
Exactement.
À
Michael Essien, dans la puissance. Je dis pas que ça deviendra Michael Essien, je dis pas qu'il finira.
Je vois ce que tu veux dire.
Mais là, il me fait, depuis que je l'ai découvert l'année dernière, il me fait cette impression de puissance et de justesse technique tout en jouant sobre. Honnêtement, c'est une très très bonne pioche, Ndaichimi.
Voilà pour Nice, les gars. On en parlera bien sûr cette semaine dans Génération After et dans l'After.
Toutes proportions gardées.
Anthony est avec nous, supporter de Clermont. Salut Anthony.
Salut les gars.
Bienvenue
salut
dans le teneur. T'étais au stade apparemment.
Ouais, j'étais au stade. Je suis en train de sortir là.
Bon alors.
C'est pour notre part en tout cas, c'est le pire match qu'on ait fait depuis le début de saison. Il n'y avait pas forcément un gros Nice en face, mais comme j'étais en train de vous écouter, c'est vrai que c'est très solide. C'est très fort dans les duels. Ça défend en avançant et puis ça nous a mis en difficulté. Nous on avait Magnin, Gatien qui avait beaucoup de difficultés à jouer de l'avant et on n'a pas réussi.
Est-ce que votre milieu justement il n'était pas trop défensif à la base et que ça empêchait, enfin moi c'est ce que dans mon analyse de la première mi-temps je trouvais que ça nuisait aux offensives et aux projections offensives notamment parce qu'il y avait trop de milieux défensifs et les attaquants qui ne bougeaient pas assez sur le front de l'attaque, notamment Cham ou Nicholson, eh ben on pouvait pas les trouver non plus. Et ensuite si jamais on les trouvait, ces trois-là ne se projetaient pas.
Exactement. On avait Gatien qui d'habitude arrive à casser des lignes, à trouver.
Là, il le faisait
même
pas.
Sur du jeu long, à trouver des solutions. Et là, pas du tout. Il nous forçait à jouer de l'arrière et c'était très compliqué. On n'arrivait pas à trouver Cham qui est un très bon joueur et qui fait un bon début de saison. Sauf qu'on n'arrivait pas à combiner. Là, c'est vraiment autant il y a des matchs où on a perdu alors qu'on méritait mieux sur le début de saison. Je pense que depuis le début de saison, c'est pas payé ce qu'on fait. Que ce soir, on aurait pu s'en tirer avec un nul parce que Nice n'a pas forcé le talent, mais en tout cas, on méritait pas mieux ce soir, c'est sûr.
Clermont, attention évidemment, 17e de Ligue 1 après 10 journées pour les Clermontois, 2 points d'avance sur Lyon qui jouera dimanche, et à 3 points de Metz, 16e, et à 3 points de Montpellier également, 15e. Merci Anthony.
Il n'y a pas de souci.
Bon retour chez toi. Très bonne soirée. À très vite sur RMC. Voilà pour Nice, qui je le rappelle, sera encore à la fin du week-end, la seule équipe invaincue du championnat de France de Ligue 1, les gars. Voilà. 6 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Magnifique.
Mérité.
Quelle entrée fracassante de notre championnat de Ligue 1 de Farioli. On en parlera la semaine prochaine, bien sûr. Dans un instant, Lyon avant Marseille. Fabio Grosso est-il capable de relancer l'OL? On l'écoutera. Tiens, le coach Lyonnais était en conférence de presse aujourd'hui. Restez avec nous, c'est RMC. C'est l'After avec Lionel Charbonnier et Kevin Diaz. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Nicolas Jamin.
Avec Lionel Charbonnier, avec Kevin Diaz, c'est l'After RMC, il est 23h31, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Dimanche soir, le match du week-end, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais au Vélodrome, bien sûr. Fabio Grosso, le coach de l'OL, est-il capable de relancer son équipe ou sa mission est-elle trop mal partie pour être réussie? Vous nous appelez au 32-16, supporter Lyonnais. Alors, quelques infos, en tout cas qui viennent de la presse locale. Le Progrès à Lyon, qui explique aujourd'hui et ce soir que Grosso serait déjà en danger. Il aurait 2 matchs pour rectifier le tir. Marseille et la réception de Metz le week-end prochain. Des infos que nous ne confirmons pas, nous, ce soir, avec notre correspondant sur place, Édouard G. Bref, Grosso était en conférence de presse d'avant-match. Il est revenu sur la chasse à la taupe après les révélations de Jérôme Roten sur un vestiaire qui n'aurait plus son soutien en partie. Il n'a pas aimé car le vestiaire est sacré et tout doit y rester. Évidemment, on peut être que d'accord avec lui.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Évidemment.
Maintenant, qu'il fasse la chasse à la taupe, je crois pas qu'il essayait de trouver quel était le joueur qui avait appelé Jérôme ou que Jérôme avait appelé et qui avait sorti ça. Je pense pas. Mais qu'il remette les points sur les i en disant, voilà, on se dit les choses, ce qui se dit dans le vestiaire. ça doit rester dans le vestiaire, les gars, s'il vous plaît. On a déjà assez de difficultés. Si en plus, vous commencez à vous disperser là-dedans, moi, je trouve ça complètement normal qu'il ait recadré les joueurs. Il y a pas de souci pour moi.
Puis chercher la taupe, hein, ça sert à rien en général. Tu la trouves rarement.
Tu la trouveras pas.
Et tu peux déstabiliser encore
bien évidemment. Bien évidemment.
Dans le vestiaire.
Mais par contre, le dire, oui, arrêtez, les gars.
Bon,
restez concentrés.
Le dire, c'est presque déjà trop tard, de toute façon.
Il a évoqué son avenir, en tout cas des questions ont été posées sur son avenir. Bien sûr, je rappelle son bilan à Lyon, ça fait que un mois et demi qu'il est là, même pas. 4 matchs, 3 défaites, 1 match nul, est-il en danger? Se sent-il en danger? Écoutez sa réponse.
Moi je sais que ce travail c'est toujours en danger, ça m'est venu même dans le passé des fois, mais je suis consciente que pour mettre en place des choses, il faut travailler, et je savais tout. J'ai accepté avec beaucoup d'envie et beaucoup de félicité. J'ai encore beaucoup d'envie et beaucoup de félicité. Je suis très déçu par rapport au résultat qu'on a fait. On essaie chaque jour de trouver la solution. Moi, je ne peux pas penser autant. J'ai dit tout le temps, j'essaie dès que j'arrive, je ne sais jamais dès que quelqu'un me parle. Je pense que rien n'a été fait en 4 matchs. Il y a du temps pour améliorer, il y a du temps pour faire les choses. Mais je sais bien sûr qu'il n'y a pas trop de temps pour prendre les points.
Fabio Grosso, il faut reconnaître également qu'il reste toujours très calme dans ses communications. Bon, il vient d'arriver, certes, hein, il est encore à peu près frais malgré les résultats, mais il est assez gentleman, toujours le sourire en conf. Pas le premier à être parano et encore moins face à la presse.
Si tu me permets, Nico, moi, je vais quand même te dire un mot sur Laurent Blanc, en fait. Parce que est-ce qu'on se rend compte dans quel bourbier est arrivé Fabio Grosso ? Moi, j'ai souvent dit que les entraîneurs, c'était pas le problème, même si ça peut arriver que changer d'entraîneur, ça se passe mieux après, parce que les joueurs préfèrent un autre discours. On a vu Frédéric Antonetti, qui d'ailleurs, pour moi, si on venait à enlever Fabio Grosso, Frédéric Antonetti, honnêtement, si tu l'appelles pas en tant que Lyonnais, je trouverais ça presque étrange, hein, même si, certes, il a un profil un peu différent de ce qu'ils ont été habitués sur les derniers mois, mais quand même. Mais aujourd'hui, Fabio Grosso... Il arrive dans un vestiaire divisé, dans un club en difficulté. Il essaie de secouer les choses, de mettre des cadres sur le banc, de mettre des jeunes sur le banc, de trouver la bonne formule, comme dit très justement coach Courbis. Mais ensuite, c'est quand même difficile, parce qu'aujourd'hui, cet effectif, il est un peu traumatisé. Et je te disais Laurent Blanc, parce que moi, je faisais partie de ceux qui pensent que Laurent Blanc, c'était pas le problème à Lyon. D'ailleurs, Peter Bosz non plus n'était pas le problème. Et donc, il y a...
Silvino?
Silvino, je suis même pas sûr que c'était le problème.
Quand on passe autant, tu peux. Ouais, non, mais quand on passe autant, c'est vrai, que tu te rends compte qu'en fin de compte, le problème c'est pas l'entraîneur.
En fait, le vrai problème, c'est même pas tous ces entraîneurs-là, et je pense c'est même pas les joueurs. Le vrai problème, même si on n'était pas là en interne pour voir exactement comment ça s'est passé, c'est de ne pas avoir tout fait pour garder et pour maintenir en poste un certain Juninho. Pernambucano, qui est quand même une légende du club, qui essayait de faire tout, en tout cas c'est toutes les échos qu'on a, pour l'intérêt du club, peut-être qu'il découvrait un nouveau métier, mais aujourd'hui ce qui manque c'est quand même une direction sportive qui fixe le cap, peu importe l'entraîneur, j'ai envie de te dire presque peu importe le président, et surtout peu importe les joueurs, parce que aujourd'hui l'entraîneur qui arrive là, alors l'histoire de la taupe, pas la taupe, qu'est-ce qui a été dit, par qui, ce sera toujours très très difficile de le savoir.
Oui, c'est une perte de temps pour lui, faut pas qu'il...
C'est une perte de temps et surtout d'énergie pour lui et pour son groupe.
Ce que je vois à travers ça, c'est que bon, Lyon a mis beaucoup plus de temps pour se perdre, mais tous les clubs qui ont été des grands clubs formateurs, et notamment à mon époque, tu passes Nantes ne s'en est jamais remis de l'arrêt Bosman. Sochaux ne s'en est jamais remis. La JOCR ne s'en est jamais remis. L'un des premiers qui est descendu à cause de ça, qui ne s'en est pas remis, c'est Auxerre. Pourquoi ? Parce que le tissu économique est beaucoup plus faible et que si tu voulais t'en sortir sans la formation, il fallait énormément d'argent. Ce club n'avait pas énormément d'argent. Il aurait fallu qu'il trouve d'autres idées pour s'en sortir. Ils ne les ont pas trouvés en temps et en heure. Ils les ont trouvés ensuite. Mais là, aujourd'hui, j'étais à Sochaux, Nantes, Auxerre, maintenant Lyon, qui était un très grand club formateur, on se tirait la bourre tout le temps. Et là, ils ne sortent plus rien non plus. La formation, c'est-à-dire qu'on s'est perdu. On n'a jamais réussi à se reconstruire.
Je peux te rajouter très rapidement, mais l'Ajax Amsterdam.
L'Ajax.
À part ce qu'ils font en 2018, ou même certains clubs belges qui avaient des belles générations.
Bosman, comme les gars, c'est loin quand même, c'est ouais, 30
ouais, mais,
ans.
Oui, mais ouais, il te faut du temps pour te. Il te fallait parce que tu avais un coussin, tu avais un matelas quand même, financier pour la JOCR qui était tout le temps un club positif. Mais il t'a fallu un matelas, il t'a fallu du temps pour que ce matelas s'appauvrisse et qu'à un moment donné, tu te retrouves face à tes réels problèmes. Tu n'as pas su te reconstruire, tu n'as pas su trouver les bonnes idées pour échapper à cette formation.
Monsieur Bosman, Lyon a formé beaucoup de joueurs.
Oui, mais ils ont formé
énormément de très très bons joueurs, voire de grands joueurs.
Bien sûr, mais si tu regardes bien.
Mais tous ceux qui faisaient de la formation, c'est fini.
Ils ont formé des très bons joueurs. Mais on a Anthony Martial qui part très jeune à Monaco. On a des jeunes Lyonnais qui, certes, sont arrivés.
Monaco, qui était un très grand formateur.
Ils ont la puissance financière aujourd'hui pour aller piquer des Thomas Lemar en post-formation, des Bernardo Silva au Benfica Lisbonne, des Mbappé
Mais si t'arrives pas à trouver tous ces clubs qui n'ont pas réussi à trouver
ceux qui n'avaient pas le tissu économique, en effet, la réflexion, elle est intéressante. Et aujourd'hui, juste pour finir sur Lyon, ils ont aussi eu des jeunes qu'ils ont réussi à garder, mais en donnant des salaires démesurés par rapport, certes, parce que sinon ils allaient aller dans un autre club.
Bien sûr.
On leur jette pas forcément la pierre, ni aux joueurs ni au club, mais aujourd'hui, ça déstabilise un vestiaire, ça déstabilise les statuts, et aujourd'hui, pour en revenir à ça, c'est quand même pas facile pour être l'entraîneur de Lyon, et on l'a vu avec des entraîneurs qui ont des parcours complètement différents, avec des âges différents, avec des expériences différentes, et tout le monde galère dans ce club, mais je pense encore une fois parce qu'il n'y a pas de direction sportive.
Cédric est avec nous, 32-16, supporter de l'OL. Salut Cédric.
Ouais, bonsoir l'after.
Bienvenue dans l'after avec Lionel et Kevin. Bon, je pose la question à toi puisque Lionel et Kevin n'y ont pas encore répondu. Est-ce que tu penses que Fabio Grosso est capable de relancer l'OL?
Difficile à dire ça.
Non, moi je pense pas. Sincèrement, je pense que Lyon fait une grosse erreur en fait sur Grosso, parce que manque d'expérience. Alors oui, il connaît le club, il y a aucun problème. Tout le monde l'apprécie en tant que joueur quand il a été formé quand il était au club. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que il a aucune expérience au haut niveau. Moi, j'aurais plus dans ce cas, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais j'aurais plus pris un mec comme Fred Antonetti qui connaît la Ligue 1. Il parle français, bon, grosso parle français, mais je veux dire, il connaît la Ligue 1.
Je viens de le dire, t'as entendu?
Ah non, j'ai pas entendu. Du coup, on se rejoint, donc ça montre que je dis pas de conneries. Mais voilà, j'aurais mis un mec comme ça. Et un mec qui est capable de mettre de la poigne dans un vestiaire. Je pense qu'il est quand même très souple. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on oublie que Lyon était quand même en demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ans et demi. Et il se retrouve dernier de Ligue 1. C'est quand même le deuxième plus gros budget de France. Alors je veux bien qu'on trouve des excuses des fois à Lyon, mais là cette année ils en ont pas du tout. Le rachat, pas le rachat. Dans le jeu c'est pauvre. Les joueurs se tirent dessus à balles réelles. Ça devient très compliqué. Alors au début ça fait rigoler un peu tout le monde. Et nous les Lyonnais les premiers parce qu'on criait on est en Ligue 2 il y a une semaine.
C'est vrai que ça devient concret presque maintenant quoi. Ça devient dangereux. Ouais. Sauf que ça devient presque concret maintenant.
Ouais, voilà. Ça devient dangereux. Même si je pense que sur ce match-là, par rapport au match de ce week-end, je pense que Marseille, mine de rien, c'est peut-être fou ce que je veux dire, a plus à perdre que Lyon sur ce match-là.
Je ne suis pas sûr. Mais
si Marseille perd contre Lyon, qui a pris que 3 points sans gagner un match depuis le début de la Ligue 1, je pense que.
Ouais, mais si vous perdez contre Marseille et que derrière le premier non relégable, donc Lens gagne, vous êtes à 9 points et là ça commence à être très très compliqué.
Mais ce qui est quand même fou, c'est que ce soir on est content que Clermont ait perdu. On s'appelle Olympique Lyonnais, on est content que Clermont ait perdu et ça devient quand même très grave.
Quand on parle de direction sportive, c'est pas que le fait d'être un directeur qui prend les décisions, c'est aussi dans l'autre sens du terme, c'est-à-dire celui qui mène la barque et celui qui donne la direction où veut aller le club. Quel est le cap aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'on reste sur la formation? Est-ce qu'on est sur de la post-formation? Est-ce qu'on est sur des joueurs expérimentés? Même si aujourd'hui, on n'est pas idiot. Tout le monde sait que peu importe le niveau, il faut un peu de tout dans ton effectif. Des joueurs d'expérience, des joueurs moyennement âgés, des joueurs jeunes qui sortent du club pour faire pourquoi pas des plus-values. Ok. Mais aujourd'hui, qui est l'homme qui incarne le club?
Mais il y a personne. Je suis passé sur Moscato tout à l'heure cet après-midi parce qu'on m'a appelé pour parler de Lyon. Et je disais que même si Olas, pour moi, il a énormément de torts sur pas mal de choses, attention, il n'y a aucun problème, mais quand il y avait Olas, on tapait sur Olas par rapport au résultat sportif, par rapport à tout. On tapait jamais sur les joueurs. Là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a le navire en main. Donc du coup, on tape sur les joueurs. Et encore, je trouve les supporters lyonnais très gentils. Sincèrement, on n'est pas encore au cas de Marseille sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On en est encore très loin, mais on est quand même dernier de Ligue 1.
Ouais.
On s'appelle Olympique Lyonnais.
Et moi, c'est pas déjà une forme de résignation de se dire que voilà, c'est une sorte de continuité annoncée par certains il y a quelques semaines, quelques mois déjà.
Ouais, mais à un moment donné, par contre.
même, on est quand même.
Mais là, les joueurs doivent réagir quand même.
À un moment donné,
c'est les joueurs qui sont responsables. Tout à l'heure, on disait, bon, ce ne sont pas les entraîneurs à Lyon qui sont responsables. Peut-être, de Peter Boss à aujourd'hui
Fabio Grosso ou à Laurent Blanc.
Tout le monde est, bien sûr, tout le monde est. Les joueurs aussi le sont.
Mais surtout en ce moment.
L'effectif lyonnais, les gars, c'est pas un effectif de, même pas de 13e de Ligue 1, logiquement. Si Cacré retrouve son niveau,
t'es d'accord avec
t'as un effectif top 10 Ligue 1 quand même, là, les gars.
Je voudrais avoir l'avis de notre auditeur. Je sais pas si tu suis le sport américain, mais moi, c'est mon cas. Qu'est-ce que tu as pensé de, attention, ce n'est pas une critique envers Textor, je te préviens. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de votre directeur actionnaire? Est-ce que tu peux entendre que lui, avec sa vision américaine, où ils sont souvent en train de positiver et qu'en plus dans leur sport à eux il n'y a pas de descente, donc difficile d'envisager un truc que tu connais pas dans ta,
je suis d'accord avec toi.
Voilà, mais aujourd'hui moi c'est pas ce qui m'a choqué le plus, tu vois, sa sortie en disant non. En fait, lui, c'est sa façon d'amener un peu de positivité, oui, dans le club.
Tu veux dire que lui trouve ça un peu de parler de maintien aujourd'hui, quoi. Voilà,
c'est regarde, ça. Regarde, le Textor, il est là une fois de temps en temps. Le nouveau président de Lyon, franchement, on sait même pas qui c'est. Non mais sincèrement, on ne sait même pas qui c'est. Il a pris la parole une fois pour dire salut, je suis président devant le groupe Amas Stadium, et on ne sait même pas qui c'est. Enfin, je veux dire, merde quoi. Ça fait sincèrement, bon. Lyon, ça fait, allez, je pense que sur les 30 dernières années, Lyon, c'est le club en Europe qui a été le mieux géré, avec des Real Madrid et tout ça. En termes de gestion, je parle, d'accord. Je pense que Lyon, c'était un club qui a été très bien géré, sûrement dans la formation, dans les résultats, dans tout ce qui est Coupe d'Europe. On a toujours été... voilà, ça a été au niveau gestion. Mais là, ça devient
catastrophique. On verra dimanche soir.
Ça devient un grand bordel. Maintenant, on verra dimanche soir. Mais je pense que, par contre, Lyon n'a rien à perdre sur le match de dimanche. Et si Lyon a quelque chose à gagner, bah, c'est bien là, au Vélodrome, contre Marseille, et l'Olympico, qui a gagné ce match-là.
Et Lyon devra surtout gagner le week-end suivant, hein, face à Metz, c'est la réflexion.
Voilà, Metz, ouais.
Cédric, merci. Très bonne soirée à toi.
À vous,
très vite sur RMC, les gars, dans
bonne
un instant.
Soirée,
on parle de Warren Zahir Emery. Doit-il rejoindre les Bleus dès que possible? On fait le débat ensemble avec Lionel et Kevin. Et vous, 32-16. C'est l'after, c'est RMC, 23h44.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est la fin de l'after du vendredi soir. Bien sûr, on sera là demain aussi pour débriefer les matchs, hein, et notamment un Reims-Lorient à 17h, un Lens-Nantes. Sachez-le, même si nous allons laisser l'antenne demain soir au rugby, la finale de la Coupe du Monde Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, ce sera en direct, en intégralité sur RMC, l'after rugby dans la foulée. Et vous pourrez retrouver l'after du samedi soir en podcast, hein, très vite, que nous mettrons en ligne le plus tôt possible dans la soirée. Zahir Emery doit-il rejoindre les Bleus? Warren Zahir Emery doit-il être appelé le plus tôt possible en équipe de France, autrement dit par Didier Deschamps, à 8 mois de l'Euro. Prochaine liste mi-novembre pour les deux derniers matchs de qualif, sans enjeu pour les Bleus, déjà assurés de jouer l'Euro 2024, Gibraltar et la Grèce pour finir. S'il est sélectionné, Zahir Emery deviendra le plus jeune international français depuis 1945. Depuis Eduardo Camavinga, 17 ans, 8 mois et 10 jours, ça se joue à 2 mois près. Deschamps, je rappelle, était au parc samedi et mercredi soir, a observé les progrès, la maturité du joueur. Il rappelle régulièrement que l'âge n'est pas un souci, hein. Lui qui a intégré par le passé, avant leurs 20 ans en équipe de France, Varane, Coman, Dembélé, Martial, Mbappé, bien sûr. Alors pourquoi pas Zahir Emery? Dès maintenant, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Je rappelle, hein, déjà 42 apparitions en pro, hein, dans sa carrière, qu'il a débuté chez les pros la saison dernière. Lionel, trop tôt ou on peut y aller franchement maintenant? Le gars, on a des assurances.
S'il le mérite, alors trop tôt. Ce qui me dérange, c'est le dès que possible, tu sais, dans la question.
Ouais.
Dès que possible, ça me dérange. C'est si le mec est bon et que le sélectionneur se dit il peut nous apporter quelque chose dans un futur proche ou plus lointain, ben oui, faut le prendre. C'est pas parce qu'il a 17 ans. Le football a évolué. On compare ça, ça serait peut-être le plus jeune joueur depuis combien, 45 40. Ans, c'est ça?
Ouais, depuis 1945.
Ouais, donc mais c'est déjà les records sont faits pour être battus, mais il y a une telle évolution que pour moi c'est ouais. Vraiment pas un problème.
C'est-à-dire qu'un joueur de 17 ans aujourd'hui n'est pas un joueur de 17 ans il y a 30 ans.
Mais bien évidemment,
quoi.
La formation n'est plus la même, on n'est plus ouais. Formé pareil, on n'est plus le niveau intellectuel n'est plus le même non plus, on n'est pas que ce soit enfin quand je parle l'intelligence football, ouais. On est beaucoup plus mûr
dans la programmation
maintenant
d'un joueur
ans,
également, c'est ça.
Mais ouais. Bien évidemment, on est beaucoup plus mûr que ce soit physiquement ou intellectuellement, je parle encore d'intelligence de football maintenant qu'avant. Donc pour moi, ce n'est pas un souci. D'autant plus que ça veut pas dire, parce que tout de suite on va dire, ah ouais, mais il a 17 ans, il va accumuler les matchs et tout ça. Non, tu peux aller en équipe de France et y aller aussi pour prendre la température. Moi, je me souviens des Thierry Henry qui ont fait la Coupe du Monde. Là, c'était même pas être appelé pour des matchs qui n'ont plus d'enjeu. Là, c'était pour la Coupe du Monde. Thierry Henry, Trezeguet, je sais plus quel âge ils avaient. Ils avaient moins de 20 ans à l'époque. Il me semble. 19 ans,
ouais, c'est ça.
Quand ils ont été appelés pour faire une Coupe du Monde, c'est un mec qui devrait aller sur les traces de ces joueurs-là.
Mais quand dès maintenant, le plus tôt possible, c'est parce qu'il y a un Euro dans 9 mois et on peut partir du principe, peut-être c'est tout le débat, qui peut déjà apporter à cette équipe de France.
Il peut apporter quelque chose, excuse-moi, je termine, Kevin. Tu peux apporter quelque chose, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que aller en équipe de France, il faut prendre une culture. Il peut être appelé en équipe de France, être sur le banc, parce que là je vois tout le monde, ah ouais, mais alors s'il l'a appelé, qu'il le fait pas jouer, ça... Non, tu peux être appelé en équipe de France pour apprendre à gagner, pour regarder les Griezmann, les Giroud, les qui tu veux qui ont gagné, qui ont été champions du monde, comment ils se préparent, comment on fait, comment on prépare la gagne. Et puis tu peux le faire rentrer des bouts de match, il y a pas de souci. En fin de compte, il va pas accumuler à 17 ans, on va dire il est trop jeune, on va le griller, il va faire trop de matchs et tout ça. Non, parce que le sélectionneur, c'est pas quelqu'un
Et puis ça dépend de tous les cas, c'est pas différent.
Mais bien évidemment,
nous un joueur
bien évidemment
et anormalement mûr pour son âge, ça qui est dingue. Oui,
mais bien évidemment,
dans le jeu et dans la réflexion du jeu.
Pour répondre à ta question, tu sais déjà ce que je pense de faire jouer les joueurs trop tôt. Après lui, ça a l'air d'être vraiment pour le coup un contre-exemple, c'est un joueur qui est vraiment impressionnant et qui arrive malgré son très jeune âge à se mettre au niveau du Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas mince à faire. Donc bravo à lui. Maintenant l'équipe de France, tu me dis qu'il y a un Euro.
Ouais.
J'ai envie de te dire, je m'en fiche de l'Euro. Il y a aussi les Jeux Olympiques et aujourd'hui, il est déjà surclassé en espoir.
Donc il est le capitaine.
Hein. Il est le capitaine des espoirs en étant surclassé.
Donc
laissons-le grandir avec son club. Comme a dit Lionel, il y a des exemples en équipe de France, mais il y a aussi beaucoup d'exemples de grands professionnels au Paris Saint-Germain. Donc, s'il y a des choses à prendre, il va déjà les prendre au quotidien dans son club. Laissons-le être le leader de cette génération d'espoir, grandir avec
cette génération. Mais s'il peut déjà apporter quelque chose à l'équipe de Deschamps.
Mais l'équipe de Deschamps, aujourd'hui, c'est déjà un des favoris de l'Euro. Ils n'ont pas besoin de voir Zaïre Emery pour être favoris de l'Euro. Ils le sont déjà. Donc, laisse-le grandir avec sa génération. Laisse-le, pourquoi pas, aller chercher la médaille d'or au JO ou au moins faire une belle compétition.
C'est aussi le former, Nico.
Dans sa formation, c'est-à-dire qu'il peut être appelé parce qu'il est extraordinaire actuellement. Il peut avoir un coup de moins bien et ne plus être appelé. Hein.
Comme Rabiot en a eu, comme Tchouaméni
et Deschamps. Il y en a qui le disent plus ou moins bien. Il y en a. Et donc c'est aussi, ça fait partie de la formation, l'humilité. T'es bien, t'es appelé en équipe de France. T'es pas bien, écoute, tu vas peut-être aller avec les jeunes qui sont, enfin, ceux de ton âge, la sélection de ton âge.
Il a eu des difficultés, donc
ça fait partie de l'humilité. Et l'humilité, l'abnégation, tout ça, ce sont des valeurs dont Dédé est très friand.
Je rappelle que Deschamps a dit il y a 3 semaines, entre un rôle très important au PSG avec les espoirs et un rôle un peu secondaire avec nous, je laisse la priorité à Thierry et aux espoirs. Mais s'il continue comme ça, donc c'est il y a 3 semaines, hein. Avant le mois d'octobre et notamment avant le PSG Milan, forcément c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain de par ce qu'il réalise et avec une maturité incroyable. Pour que Deschamps soit aussi positif, laudateur concernant un joueur, c'est extrêmement rare. C'est vraiment que Zaïre Emery a vraiment tapé dans l'œil de Didier Deschamps.
Quelle aubaine pour lui. Parce que tu fais dézoner un Griezmann, tu lui mets un nouveau poste, t'es pas sûr que ça marche. En tout cas, ça marche. Et là, t'as un Zaïre Emery qui arrive à la fin, peut-être, de carrière de Griezmann. Et c'est hallucinant.
Si tu le prends pour être 23 ou 24e, alors encore une fois qu'il y a les JO qui sont une très belle compétition avec des joueurs déjà plus âgés que lui.
Oui.
Moi je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, si tu penses que l'équipe de France pourra pas faire sans Zaïre Emery,
c'est parce que je te dis t'es caricatural.
Après, il peut gratter
quelques minutes de jeu à l'Euro et être frais pour les JO.
Non.
Voilà.
Mais non, la préparation ça se fait avec l'équipe dans l'idéal quand même.
Il pourra.
Ouais, mais dans l'idéal si l'équipe de France.
Attends, il aura quel âge?
Il aura 18 ans.
Ouais.
Ça va.
Il aura 18 ans.
Ça va.
Non, non, parce qu'à 17 ans, si tu as 17 ans, tu ne peux pas cumuler les deux compétitions.
Ah bon?
Oui.
Ah bon, je ne savais pas. D'accord.
Moi non plus, je ne savais pas. J'ai failli faire l'erreur avec mes 20 ans de
l'agence Lionel Charbonnier.
Les joueurs de 17 ans ne peuvent pas cumuler deux compétitions internationales la même année. Mais s'il a 18 ans, je pense qu'il doit pouvoir le faire.
Bon, en tout cas, s'il doit prendre la place aujourd'hui, hein, si je parle pour le prochain rassemblement de quelqu'un au milieu de terrain, bon, c'est bien sûr pas de Rabiot, Tchouaméni ou Kamavinga qui sont désormais très installés en bleu.
Et Griezmann.
Ça peut être Boubacar Camara, par exemple. Youssouf Fofana, est-ce qu'il est moins fort que Fofana aujourd'hui?
Non, mais c'est pas le même poste. Camara et Fofana, c'est des sentinelles, c'est des joueurs qui se projettent peu. Lui, il est dans un profil Rabiot, il est dans un profil Griezmann, voire Kamavinga. Donc il y a quand même ce qu'il faut. Après, si on considère que Zaïre Emery est plus important pour l'équipe de France A que pour aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques avec sa génération, ou même déjà avec une génération qui est plus vieille que lui... Moi, je considère pas, mais après, on verra.
Bon, merci, en tout cas, sur le chat, à IGF Mickey qui dit complètement d'accord avec Nico. Bravo, Nico.
Il y en a un autre qui disait
toujours très, très intelligent, ce que dit Nico. Bravo, encore des messages. Oh, Nico, les mots, les termes. Bravo, Nico. Voilà, il est vraiment trop
c'est
fort,
toi
Nico.
Qui les envoie, les deux.
Voilà.
Non, j'exagère.
Je suis sûr, t'as juste trois un message. Là, je suis sûr juste qu'il... un message. Sinon, écoutez, Deschamps nous dit, H. Convoyage va faire de la politique comme il sait faire. Il va faire un choix égoïste et pas sportif. Henri VS Deschamps, il va le prendre pour l'Euro, c'est sûr. Ouais, je pense pas. Non, au contraire. Je pense ça bosse bien ensemble. Voilà pour Zaïre Emery, joueur phénoménal. On en reparlera ensemble demain soir. Donc le rugby, la finale de Coupe du Monde, plus l'after rugby. Et nous, on sera en podcast. Hein. Sachez-le très rapidement en fin de soirée pour débriefer Reims-Lorient et Lens-Nantes. Merci Kevin, merci Lionel. Très bonne soirée à tous sur RMC.
RMC, l'after foot.